Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Ces Garçons-là. Cette semaine, on passe une heure avec un top chef. Son nom, Ambroise Voreux. Il s'est fait remarquer dans la 13e saison de Top Chef sur M6 durant 6 semaines à l'antenne. Désormais, loin des caméras, à 28 ans, Ambroise cuisine toujours dans son restaurant, la cabane à matelots à quelques mètres de la Loire. La Loire qui lui fournit une grande partie, vous allez l'entendre, de sa carte. Enfance, scolarité, cuisine, passion pour recevoir, mais aussi réalité des étoiles Michelin, coulisses de l'émission Top Chef, quotidien du métier de chef. Ses coups de cœur dans l'assiette, on va passer une heure cette semaine avec un Top Chef plein de talent, Ambroise Voreux, et dans Ces Garçons-là. Bonjour Ambroise.
Bonjour.
Quel est le plus ancien souvenir que tu aies de toi, de ton enfance ?
Je crois que mon plus vieux souvenir, c'est un souvenir de famille vraiment très typique, très, très classique. Il n'y a rien de très, très original dans ce que je vais dire, mais pour moi, ça résume beaucoup de mon enfance. C'est une soirée qui se déroule en hiver, je crois, où il fait vraiment très sombre et en fait mes parents s'apprêtent à partir pour rejoindre des amis chez eux, voilà, ils ont été invités ailleurs. Mmh. Et en fait, histoire rigolote, au moment de partir, ils se rendent compte que des invités arrivent chez eux.
D'accord.
Ils avaient oublié qu'ils avaient invité des gens chez eux.
Ouais.
Donc, branle-bas de combat, mais c'est qui les gens dans leur rue qui arrivent? Et je crois que je suis pas vieux, je dois avoir 5-6 ans.
Ouais.
Parce que bon, petite parenthèse, mais quand on nous demande notre plus vieux souvenir, il faut faire attention entre les souvenirs, vraiment ceux dont on se souvient, et ceux dont on vous a tellement raconté l'histoire que finalement, on a l'impression de l'avoir vécu.
C'est vrai, c'est vrai.
Quand j'y ai réfléchi à cette question, je me suis dit, mais en fait, les vrais premiers souvenirs, les vraies premières sensations, en fait, c'est cette soirée-là où ces gens arrivent. Et on va devoir faire un choix, soit leur dire bon bah écoutez on s'est gouré, désolé mais on est invité ailleurs,
ouais.
Soit on va jouer le jeu. Et en fait ce qui est hyper drôle de ce jour-là, c'est que mon père descend et joue le jeu de comme si de rien n'était. Et il accueille les gens comme si on les attendait. Et en fait cette histoire elle est anodine, mais bon je pense qu'il n'y a pas que ça, mais elle a vachement fait écho après une fois que j'ai choisi ma voie professionnelle, parce que mes parents, ils ont réussi à leur offrir un repas, entrée, plat, dessert, merveilleux.
Mais attends, rien n'était prêt.
Rien n'était prêt. Et moi, j'aidais beaucoup en cuisine et je m'en souviens que c'est la fois où j'ai le plus aidé. J'avais fait rapidement, j'avais pris une boîte de sardines, je m'en souviens, je l'avais un peu effritée avec de la crème fraîche ou quelque chose comme ça.
Et puis, pour faire des toasts ou des choses comme ça.
Ouais. Et les gens, des années après, on leur a posé la question, on leur a avoué en fait, parce que c'était bons amis de la famille. Et ils nous ont dit, mais on s'est rendu compte de rien du tout. Et après, avec du recul, je me suis dit, mais c'est vraiment ça, la restauration, c'est...
Se rendre compte de rien, en fait.
Ouais, c'est fou, ouais. Et ça, je crois que c'est mon plus vieux souvenir de voir mes parents accueillir les gens comme ça.
Mais t'avais quel âge?
Oh, je devais avoir 5-6 ans, je pense. J'étais vraiment, vraiment très, très jeune. Mais j'ai cuisiné très jeune. Hein. Mais ce truc-là, en fait, c'est quelque chose que je dois beaucoup à mes parents et qui m'habite, en fait, à chaque fois que je travaille au restaurant, que je travaille en cuisine. Et c'est un point que j'aime bien souligner, c'est que la cuisine, pour moi, bon, c'est une chose, on parle beaucoup des chefs, des cuisiniers, des artistes, voilà. Bon, c'est des choses que j'aime pas tellement. Par contre, pour moi, il y a un art, c'est recevoir.
Ah ouais, c'est ça. Au-delà de la cuisine,
ouais,
au-delà de la restauration.
Bah, d'une part, je trouve que de trop valoriser un métier dans tout un secteur, c'est pas très sympa pour les autres, parce que ouais. Bah, les pauvres serveurs, plongeurs...
Sommeliers,
secrétaires, bon, ils sont pas trop mis en valeur, mais... En plus de ça, pour moi, je suis persuadé que bah, tu vas quelque part et l'art de recevoir, ça englobe, c'est l'intégrale en fait. Mmh. Et pour moi, c'est le plus important dans un restaurant. Et quand on va quelque part et qu'on est bien reçu, et bah, c'est un tout en fait. C'est la façon dont tu es habillé, la façon dont tu te comportes, la peinture de la porte d'entrée. Enfin, c'est vraiment tout en fait. Et ça, c'est
l'odeur,
quelque chose...
les bruits aussi.
Exactement. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important.
Et t'avais quel âge? Donc 5-6 ans et tu cuisinais déjà à l'époque?
Oui, bah, je me suis tourné vers la cuisine très tôt. Alors, ce qui est rigolo, c'est que dans la famille, il n'y a aucun cuisinier ou serveur ou je sais pas. Personne ne travaille dans la restauration. C'est que moi qui ai choisi cette voie.
Comment tu l'expliques, ce choix de voie-là?
Disons que c'est, je pense, en fait, mon père, il élevait des, enfin, il élève toujours d'ailleurs des poules, des canards, des lapins. Il faisait son potager tous les lundis. Il allait au bord de la mer. Bon, c'est vraiment quelqu'un qui est très branché produit.
On rappelle que t'es normand.
Oui, je suis normand. Mais non, je suis normand, donc forcément, on avait ce contact en fait du produit qui était très très prégnant, très fort à la maison.
Ouais.
Moi, je revois les tourteaux courir sur la table de la salle à manger quand mon père revient de la mer. Je revois le poisson qui est arqué comme ça sur la planche à découper, qui est frais. Et apprendre tout de suite à reconnaître un bon produit, à savoir comment, quand est-ce qu'on plante les carottes et comment est-ce qu'on choisit un champignon dans la forêt, en fait.
Un rapport extrêmement fort, en fait, avec la nature,
C'est ça.
finalement.
Ah ouais, et que c'est... Ouais, je crois que c'est ça le vrai point de départ. D'ailleurs, j'aime bien dire que c'est la nature, c'est le contact avec la biodiversité qui est ma vraie passion. Et que finalement, la cuisine, en fait, c'est mon travail et c'est l'aboutissement de tout ça.
Bah, c'est un peu la fin de la chaîne, finalement, la cuisine.
C'est ça. J'aime bien dire ça. Après, c'est mon côté un peu provocateur parce que les gens souvent ils nous disent alors du coup vous êtes pas c'est un métier passion cuisine. J'aime bien dire ah non moi la cuisine c'est pas ma passion. Ça, voilà, c'est pour un peu les emmerder. Mais...
Et il était comment le tout jeune Ambroise, en fait, dans ces années-là? Plutôt bon élève, studieux, ou alors pas du tout rêveur, justement beaucoup au contact avec la nature?
Alors moi j'ai eu une scolarité hyper compliquée à deux vitesses, c'est-à-dire que de la maternelle à la troisième, donc ça fait un beau morceau de la
Ouais,
scolarité
quand même.
déjà. Il me restait pas beaucoup de temps pour me rattraper.
Non.
J'étais très mauvais élève, pas tant sur les notes, parce que j'étais toujours autour de 10, 12, voilà. Mais je travaillais énormément chez moi
C'était dur.
et j'y arrivais pas en fait.
Ça t'emmenait pas, quoi.
Ça m'emmenait pas. Pourtant, alors ce qui est très bizarre, c'est que ça me passionnait. J'aimais bien aller à l'école. J'ai jamais eu de problème de harcèlement ou de vraiment d'échecs scolaires. Jamais, j'ai toujours été très... comment dire, j'ai toujours pris les problèmes vraiment à bras-le-corps et je voulais me donner les moyens d'y arriver.
Ouais.
Mais proportionnellement à la quantité de travail que je
Et
faisais
les efforts, ouais.
et les efforts, je ne comprenais pas. Et en fait, moi, j'ai eu un énorme déclic. C'est en quatrième ou même en cinquième. J'ai commencé à voir une orthophoniste qui m'a... Alors, tout de suite, ça fait un peu les grands mots. On se dit, mais non, il y avait un souci. Alors, effectivement, je faisais énormément de fautes d'orthographe. Je lisais pas très bien. Moi, j'ai pas su lire l'heure sur une montre jusqu'à la troisième, je pense. Bon, des trucs comme ça, un peu à la con.
Et tu l'expliquais pas.
Bah, je sais pas. Je l'explique pas trop. Après, maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, moi, j'étais dyslexique, dysorthographique, dyspraxique.
Ouais.
Bon, moi, je suis pas trop là-dedans. On m'a jamais trop.
On n'a pas voulu te ranger dans une boîte.
Non, pas trop. Puis même moi, je trouve qu'on est tous très différents en fait. Et
Ouais.
puis chacun, voilà, apprend à sa manière. Mais par contre, d'avoir vu cette dame qui m'a Et en fait, elle m'a bouleversé, j'allais dire, elle m'a bouleversé la vie, mais en fait, c'est vraiment
Oui,
ça,
c'est
c'est un peu
vrai.
fort, mais elle a complètement changé ma vie, c'est-à-dire que du jour au lendemain, elle a repris. Moi, je me revois en troisième chez elle à réapprendre à lire l'heure et me dire, mais oh, mais qu'est-ce, mais t'es con ou quoi, mais tu sais pas lire l'heure sur une horloge. Et en fait, elle a repris point par point des choses comme ça qui en fait, ont fait que.
Et peut-être qu'on ne te l'avait pas assez expliqué.
Je sais pas, mais j'avais pas les codes en fait. Et petit à petit, elle me les a réenseignés. Alors par contre, ça a été un boulot monstre parce que j'y allais entre midi et deux ou alors après l'école. Alors forcément, quand tes copains te demandent hey, « tu viens jouer au ballon » et toi,
Bah
tu
non,
dis «
je peux
bah non,
pas.
je peux pas ». Bon, d'ailleurs, je disais pas où j'allais parce que j'avais honte. On est vraiment bêtes à cet âge-là. Mais en
C'est peut-être
fait,
pour ça que tu as évité les problèmes de harcèlement, d'ailleurs.
peut-être, ouais. Et en fait, moi, ça m'a carrément ouvert. Et là, la deuxième vitesse vient après. C'est-à-dire que moi, en troisième, les profs disaient que j'étais en échec scolaire, que
Et pourtant, tu
j'étais.
n'avais pas des mauvaises notes.
Non, j'avais pas des mauvaises notes, mais en fait,
T'es pas
j'avais.
en échec, alors.
Non, mais j'avais des raisons. Je pense que j'avais des raisonnements un peu à la con. Je vais dire des trucs, je vais se dire, mais alors lui, je sais pas d'où il
Il est
sort.
perché.
Voilà. Et donc, conseillère d'orientation, tout ça, je m'en souviens qu'il m'avait dit, bon, bah, essaie d'avoir le bac. Déjà, essaie d'avoir ton brevet. Et je m'en souviens, mon brevet, je l'ai eu, mais au ras des pâquerettes. Et le truc hyper drôle, c'est que j'arrive au lycée hôtelier. Donc, je choisis très vite la voie de la restauration. Hein, je
Ça
réfléchis.
s'impose.
Ah
C'était
ouais.
déjà dans ta tête.
Ouais.
Tu t'es pas fait orienter. Tu t'es
Non.
orienté vraiment par là.
Ah ouais, moi c'était clair. Je me rappelle même pas avoir
Penser à autre
réfléchi.
chose.
Ouais. Non, non, moi je le sais depuis toujours. Et je me suis dit, vas-y, bah, lycée hôtelier, on va bien voir ce que ça donne. De toute façon, c'est un bac général, entre guillemets.
Ouais.
Parce que j'ai fait un bac technologique hôtellerie-restauration.
Mmh.
Donc tu finis avec un bac un peu général, mais professionnalisé, tu vois, en gros. Et je vais là-dedans. Et là, mais j'ai explosé. C'est-à-dire que ça m'a tellement passionné que je me suis mis à bosser au même rythme qu'avant, parce que du coup, j'ai gardé cette habitude de travail.
De beaucoup travailler.
Et là, je me suis retrouvé premier de la classe, mention très bien au bac, félicitations du jury. En BTS, après, j'enchaîne, je fais deuxième meilleur élève de l'académie, des trucs pas possibles. Alors que moi, j'étais vraiment mauvais à l'école, quoi. Et après, j'ai fait une licence, après, j'ai fait un master, et je me suis retrouvé avec un bac plus 5 en me disant, mais c'est incroyable, il y a 6 ans, t'étais... On donnait pas cher de ta peau, quoi.
Attends, on fait des masters dans la restauration ?
Eh oui, ça existe.
Et ouais. C'est un master de quoi ?
Tous les gens me posent cette question.
Désolé.
En fait, c'est à l'université d'Angers.
Ouais.
D'ailleurs, j'y retourne régulièrement pour parler un peu de mon parcours et de ce qu'on fait au restaurant avec Romain. En fait, c'est assez simple. Hein. Évidemment, c'est moins professionnalisant que le lycée hôtelier, où là, on a des cours pratiques... On a les cours théoriques sont très axés restauration. Là, en fac, c'est beaucoup plus général. C'est beaucoup, beaucoup de gestion, beaucoup de management, aussi beaucoup de droits sur le droit du travail, le droit aussi par rapport à la responsabilité qu'on a en tant que restaurateur. Si demain, j'intoxique quelqu'un, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe ? Il y a aussi tout ce qui est... Nouvelle tendance marketing. Là, en se voyant tout à l'heure, on parlait de ces grandes tendances.
Sur les réseaux sociaux.
Voilà, ouais. Sur les réseaux sociaux, tout ça. Ça, on en a énormément parlé. On parle aussi de tout ce qui touche à la restauration de manière très globale. Et alors, il y a beaucoup de travail. On travaille beaucoup par soi-même aussi à la fac. Donc, c'est intéressant de creuser des sujets. Pourquoi est-ce qu'on mange avec la fourchette à gauche et le couteau à droite, pourquoi on a un couteau à bourron, c'est plein de beaucoup d'historiés.
Là, c'est l'histoire culinaire plutôt.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est très global en fait.
Et t'avais des rêves quand tu embarques vers ces études au lycée hôtelier, donc on est en quatrième, troisième. T'avais déjà des rêves à l'époque de grande cuisine peut-être, ou t'avais déjà une cuisine qui était dans ton esprit? Je veux dire, une cuisine en règle générale pour dire des intentions, en tout cas, des envies de faire quelque chose.
Oui, j'avais, dans ces périodes-là. En plus, quand on commence à dire qu'on veut aller dans la cuisine, tout de suite...
Comment les parents l'ont pris, d'ailleurs ?
Oh, mais mes parents, c'est les meilleurs du monde. Ils m'ont dit, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que... En plus, ma mère, elle est professeure elle est maîtresse des écoles pour les classes de CP.
Mm-hmm.
En Normandie. Depuis quelques années, elle est en pré-retraite et elle a ouvert un café couture où elle fait de la couture.
D'accord.
Enfin, elle est couturière, quoi.
Elle fait des beaux pantalons.
Et elle fait des pantalons, entre autres. Et mon père, il est artisan tapissier, lui, il refait les fauteuils.
D'accord.
Et donc, ils étaient très... Mon père, métier passion à 200%. Ma mère, pareil, très, très investie dans son travail. Donc, ils étaient beaucoup sur la ligne, tu fais ce qui te plaît et ça ira
donc
bien.
Donc, ils l'ont bien pris.
Voilà,
mais est-ce que c'est pas ça, finalement, la clé, la passion ?
La passion, mais je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que...
Ouais, mais on était off.
Exact. Exact. La passion. Alors, la passion du travail bien fait, la passion du travail tout court, de se lever le matin pour une cause.
Ouais.
Ça, c'est des choses qui m'ont transmis, d'être passionné par ce qu'on fait, d'y mettre du cœur. Pour qui tu travailles, qu'est-ce que ça rapporte, quelle est la valeur de ton travail. Ça, c'est des choses que... qu'on m'a toujours beaucoup, beaucoup appris et auquel je fais toujours très attention. Après, c'est vrai que par provocation, j'aime bien dire que la cuisine, c'est pas ma passion parce que c'est un travail. Et pour moi, le travail, c'est tellement des choses profondes qui sont très différentes de la passion que j'aime plutôt dire que ma passion, en fait, c'est... tu vois, là, je viens de passer un week-end à la pêche avec mon frangin.
Ouais.
On a pêché à la mouche pendant 2 jours. Ça, c'est ma passion.
Ouais.
Passer 12 heures sous la flotte à essayer de capturer un poisson, ça, c'est ma passion. Après,
c'est pas le truc le plus cool du monde, quand même.
Non, mais voilà. Mais c'est là où c'est dingue dans les passions, c'est que moi, je m'y retrouve complètement. Et alors que la cuisine, ça, c'est quelque chose que j'adore faire, on pourrait dire qui me passionne. Sauf que c'est l'obligation du travail, c'est-à-dire que ce matin j'étais au travail à 9h et qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, j'y serai à 9h demain matin encore et encore et encore.
Cuisiner ou recevoir ?
Moi j'essaie de faire les deux au maximum. Très bonne question.
Est-ce que tu vas en salle alors ? Est-ce que tu accueilles ?
Ah oui, oui. Tous les 90% des clients, je les accueille. Ouais.
C'est vrai, c'est toi qui es à l'entrée du restaurant ? T'arrives à concilier les deux ?
Alors en fait, nous, ce qui est très pratique, c'est grâce aussi à l'aménagement que les pêcheurs et Romain ont fait dans le restaurant, c'est qu'on a la cuisine en bas qui sont vraiment les labos de production, là où on va fileter le poisson, on va faire le pain, on va recevoir les légumes plein de terre, là, il va falloir les travailler. Et en haut, on a une cuisine d'envoi qui est en fait, tu rentres dans le restaurant, sur ta droite, tu as une énorme ouverture et tous les cuisiniers et les serveurs sont là.
D'accord. Donc, on voit vraiment, on vous voit et on te voit vraiment.
Voilà, pas le choix. À moins qu'à ce moment-là, je sois descendu imprimer un papier, bon, tu tomberas forcément sur l'un de nous. Et moi, j'accorde beaucoup d'importance à l'accueil, bien sûr. On en parlait tout à l'heure sur le fait de recevoir. Et c'est vrai que quand quelqu'un rentre dans le restaurant, je veux que cette personne soit prise en charge tout de suite.
Ouais.
Et que... on lui demande, voilà, tout c'est OK, on prend votre vestiaire, vous avez une réservation, il n'y a pas de nanan. Et puis, on fait rentrer dans la bulle, en fait. Et ça, c'est vraiment très, très important. Et si je n'ai pas réussi à recevoir la personne, je viens toujours la voir après.
Ouais.
Et c'est ce qui se passe.
Saluer au départ.
Au départ, toujours.
Ouais.
Et à la fin, j'essaie de faire les encaissements aussi le plus possible. Après, évidemment, je fais d'autres choses, mais j'essaie de montrer au moins une fois, si ce n'est pas deux, pendant le repas. Ouais.
On va y revenir, mais je résiste pas maintenant à te poser la question, mais on vient te voir pour aussi, j'imagine, tout ce qui s'est passé récemment, c'est-à-dire la télévision, Top Chef, etc. Les gens veulent te voir, on te demande.
Oui, alors ça c'est quelque chose qui arrive pas mal. Alors ça arrivait aussi avant, mais beaucoup moins, parce que forcément j'étais peut-être un peu moins...
Moins
médiatisé, c'est sûr.
Voire pas
médiatisé. Oui. Alors, quand même, dans l'entreprise, quand Top Chef a été diffusé, ça faisait déjà 6 ans que l'entreprise que le restaurant était en route.
Mm-hmm.
Et ça faisait.
Et que ça tournait.
Et que ça tournait très très bien. Et ça faisait 8 ans que Romain était installé en tant que pêcheur. Donc, il y avait eu déjà pas mal de reportages, il y a eu beaucoup de choses qui avaient été faites autour du restaurant. Donc,
on peut peut-être rappeler que le concept est un peu unique parce que tu parles de Romain, c'est ton associé. Ouais. Et Romain, lui, il pêche. Et toi, tu cuisines, pour faire simple, c'est ça?
Ça tient en une phrase, c'est ça. Voilà. Romain pêche, je cuisine.
Et Ambroise cuisine, voilà.
Voilà, c'est ça. Après, on est quand même entre 8 et 10. Donc,
alors, tu n'es pas le seul à cuisiner.
Voilà, exactement. en ce moment, il y a Jade, il y a Corentin, voilà, on est nombreux.
D'où aussi le fameux silure qui, à Top Chef, a été un peu le poisson que le grand public a découvert. Silure de Loire, un poisson qu'on qualifie un peu au goût un peu terreux, un peu vaseux. Bon, c'était culotté de le proposer, parce que c'est pas un poisson qui est très séduisant d'un point de vue image, quand même.
C'est sûr que c'était un sacré pari. Mais...
il y a même des mèmes sur Internet avec le silure. Je rigole parce que je suis devant toi, ça me fait rire parce que je vois
oui.
Les images.
Ah bon, c'est bien marrant, hein, c'est clair. Mais en fait, si tu veux, avant d'y aller...
Il faut que je mette une photo.
Oui, tu mettras en description.
Oui.
En fait, si tu veux, avant d'y aller, j'étais en contact avec des anciens candidats qui avaient fait l'émission.
D'accord.
Et dont des candidats très engagés, tu vois, qui avaient des super valeurs à défendre, des super trucs.
Ce qui est ton cas aussi.
Ouais, voilà. Et moi, en y allant, j'avais un peu l'idée de me dire... attends, je vais aller dans une émission comme ça va être aussi un super haut-parleur pour tout ce qu'on fait. Bon, évidemment, pour nous mettre en avant, parce que tu es une entreprise à faire tourner, et puis on est fiers de ce qu'on fait, mais aussi pour mettre en avant les valeurs qu'on défend. Donc, la saisonnalité, bien sûr, les produits locaux, le terroir qu'on défend, mais aussi l'écologie de manière générale, en fait.
Ouais.
Et je m'en souviens avoir dit ça à une ancienne candidate, et elle m'a dit, mais en fait, je t'arrête tout de suite, tout ça... ils vont résumer ça en 3 mots que tu n'auras pas choisi et toutes tes valeurs, tes machins, tu vas avoir du mal à les placer. Ce qui les intéresse, c'est plus l'assiette que tu as fait tomber avant de dresser. Oh là là, c'est le drame, comment il va faire pour redresser. Plutôt que, alors que c'est des trucs qui arrivent assez fréquemment, enfin je veux dire, on s'en fiche quoi. Alors que de savoir que le silure, c'est un poisson qui vient du bassin du Danube, qui est en France depuis tant d'années, nanana, ça ils s'en foutent complètement.
Voilà. D'accord, ils s'en tapent.
Voilà. Donc, je me suis dit, pour une première épreuve, il fallait...
que on je dit, marque un peu
voilà,
les esprits.
On dit une image vaut 1000 mots. Bon, j'ai pris l'image au pied de la lettre.
Il n'y a pas eu les 1000 mots, mais il y a eu l'image.
Voilà, et je me suis dit, c'est peut-être une manière justement de poser des questions chez les gens. Pourquoi il a ramené ça? C'est quoi la démarche? Et en fait, c'est comme ça que j'ai voulu rentrer dans ce concours.
Et ça a marché.
Et ça a bien marché. La première épreuve était très laborieuse pour moi. Bon, entre la télé et ce qui est réellement passé, il y a beaucoup de différences.
Il y a un stress quand même quand vous enregistrez l'émission, parce que j'imagine que c'est évidemment dans les conditions du direct, mais c'est très remonté après, très romancé aussi.
Bien sûr, bien sûr. Alors moi, j'ai rarement été, pour être parfaitement sincère, j'ai jamais été aussi stressé de toute ma vie.
Ah ouais.
Alors que je suis quelqu'un qui n'est pas forcément stressé en plus.
Je peux confirmer.
Mais c'était très très intense. Franchement, ouais. Moi ça m'a mis une sacrée claque. Je me revois dans le couloir avant de rentrer dans l'arène. J'étais comme un gladiateur qui allait combattre des lions. C'était vraiment, je m'en souviens, j'avais de la musique dans les oreilles et j'essayais de me calmer et j'avais du mal à poser mon souffle. J'avais du mal à formaliser. Mettre mes idées en ordre, c'était hyper éprouvant. Franchement, moi j'ai passé 2 mois, bon après c'était plus habitué, mais la première épreuve, moi j'ai pris une sacrée claque.
Parce que le niveau était élevé.
Il y a ça, il y a que le niveau est très élevé, et que du coup tu te dis, attends, mais moi j'arrive, mon gros complexe, de gros syndrome de l'imposteur, t'es là, mais qu'est-ce que je fous là?
Alors que t'es à la tête d'un restaurant depuis 6 ans à ce moment-là.
Oui, mais je suis à la tête. Je cuisine des trucs que les gens mangent, mais c'est un travail d'équipe. Et puis t'es dans ton petit cocon, t'es à Brémond dans le 37. Je veux dire, t'es face à des mecs. Bon, c'est pas pour dire. Hein, je suis amoureux de ce village et j'adore ce coin.
Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que tu t'es installé pour le coup en Indre-et-Loire, donc à Brémond, c'est le village que tu mentionnes. Alors là, on est Brémond, c'est la confluence de la Loire et du Cher. Non, c'est près de la Loire.
C'est un peu plus bas. Que la confluence. Nous, on est vraiment sur le bord de la Loire. Pour donner une image, on est à côté de la ville de Langeais, enfin du village de Langeais. On est vraiment entre Tours et Saumur, à mi-chemin à peu près, sur la Loire. Et donc, en fait, bah, t'arrives dans une émission comme ça où t'as des mecs qui sont. Alors, moi, je suis seconde de Thierry Marx au Shangri-La. Moi, je suis machin. Moi, je travaille là-bas. Moi, j'ai 3 étoiles. Enfin, pas 3 étoiles, mais t'as un mec qui a 1 étoile, un truc. Tu te dis, mais alors, ouais, mais qu'est-ce que je fous ici?
Pourquoi ils m'ont contacté?
Et c'est pas tant. Comment dire? C'est pas, penser ça, c'est pas avoir tort, parce que, on va pas se mentir, ces émissions.
C'est une compète.
Voilà, c'est une compète. Il faut montrer un peu l'écrou. Mais faut pas oublier que l'émission. Alors, évidemment, elle va mettre en valeur des talents qui savent cuisiner, c'est sûr.
Bien sûr.
Mais alors, je vais peut-être un peu décevant en disant ça, mais c'est pas la priorité. C'est-à-dire que la priorité, eux, c'est d'avoir...
C'est du spectacle.
Voilà, c'est d'avoir des tronches de mecs qui sont un peu bizarres. Un mec qui a fait ça, qui a un chemin de vie un peu, qui a perdu sa mère. L'autre, il cuisine que les poissons de Loire. L'autre, il cuisine que des carottes. Enfin, tu vois, c'est un peu ça, quoi.
Ouais.
Et je vais pas dire que ça prend le pas sur la technicité, sur le niveau des cuisiniers, mais c'est un rapport de force, en fait. C'est un bras de fer entre la belle histoire du cuisinier qu'ils veulent te raconter, qui a vécu des trucs terribles, et sa technique... Et en fait, moi j'ai tendance à dire que c'est pas les meilleurs cuisiniers qui sont un top chef, en fait.
D'accord.
C'est ceux qui ont les histoires les plus originales.
Alors, c'est marrant parce que t'as parlé de tronche, t'as dit la tronche du cuisinier, etc. Il y a effectivement chez beaucoup de chefs des choses un peu marquantes. Les corps peuvent être tatoués, il peut y avoir des façons de s'habiller particulières aussi. Et pourquoi toi? Parce que quand on te voit, t'es normal.
Moi, ce qui leur a beaucoup plu, je pense, c'est... Enfin, beaucoup plus, j'en sais rien. Tu sais pas vraiment, d'ailleurs, pourquoi t'es là-bas.
T'as accepté, c'est tout.
Ah, non, mais surtout qu'au début, moi, je m'en souviens, j'avais reçu un message sur Instagram avec mes 340 followers d'une nana qui me dit « Ah bah tiens, c'est le casting de Top Chef 13, on aime bien ton profil. » Tu te dis « Putain, ils m'ont remarqué. » Sauf que tu réalises après que t'es 4000 à avoir été dans cette situation.
D'accord.
Donc, tu redescends tout de suite. Et en fait, tu passes les épreuves, entre guillemets, d'entretien, de tu vas à Paris, on te filme en circonstances, machin, tu cuisines, enfin voilà. Ils resserrent les taux jusqu'à avoir, je te dis, 70 profils. Et là, tu commences à te dire, bon, là, je commence à être dans le dur. Et un jour, tu reçois un coup de téléphone et on te dit, bon, voilà, t'es pris. Et c'est ce jour-là que tu te dis, est-ce que je le fais ou pas? Et pas
D'accord.
avant, en fait. Parce qu'avant, tu n'y crois tellement pas. Je te dis, tu reçois ton message, puis tu comprends que tu es 4000 dans le truc. Moi, tous mes amis Instagram ou Facebook, derrière les deux, d'Indre-et-Loire, chef, ils ont en ami en commun cette nana-là.
D'accord.
Je sais que...
Oui, ok, d'accord.
Et puis d'ailleurs, quand je les vois, les gens du casting, du coup, je suis plutôt resté en bon terme avec eux parce qu'on a quand même passé quelques mois ensemble. Ils me disaient, les gens qu'ils avaient contactés, côté de chez moi, machin, ceux qui étaient allés plus ou moins loin dans le casting. Et c'est presque 90% des chefs, en fait.
D'accord.
C'est ça qui est rigolo. Et c'est pour ça que quand tu le fais, tu te dis, mais en fait, j'ai aucune chance, parce que tout le monde y participe, ou y a participé, ou machin. Et du coup, si tu veux, quand tu captes que t'es hyper nombreux, tu te décourages un peu, quoi. Et donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui a fait que ça...
Bah ouais, parce qu'au final, toi, enfin...
Oui, mais moi, je suis le premier surpris. non, mais je pense qu'il aura plu. C'est déjà la démarche très, très singulière, très marquée de se dire, le mec, il travaille avec un
cuisine,
pêcheur.
Ouais, c'est ça, ouais.
Voilà, il cuisine du poisson.
C'est ça.
En fait, quand il réfléchit, en France...
Alors, il n'y a pas que du poisson dans ton restaurant.
Non, bien sûr. Bien sûr. Ouais, tu fais bien de le dire, c'est vrai.
Même, c'est vrai. Bah, on peut, si on est viandard, on peut aussi tout à fait. Même, et tu proposes même aussi des choses pour les véganes. Hein.
Véganes, végétariens. On fait tous les régimes possibles. On est, c'est notre métier. Hein. On reçoit, on cuisine, on peut tout faire.
Ça, c'est marrant. Tu viens de dire, on reçoit et après on cuisine.
J'en ai fait exprès.
Ah, t'es fort.
Non, mais disons, mais tu sais que c'est comme. Bon, je pars un peu loin, mais c'est comme le. On parle beaucoup en ce moment de changer le vocabulaire, de changer les tournures de phrases, de plus dire l'homme et de plutôt parler de manière générale entre l'homme, la femme, les non-genres, ce genre de choses.
Ouais.
Et en fait, je ne dis pas que j'essaie de changer mon vocabulaire, mais disons que j'essaie de faire plus attention. Bon, pour la cuisine, après, pour les autres sujets, j'essaie de le faire aussi, mais tu vois, j'ai dit...
Justement, oui, parce qu'en plus, t'as 28 ans, t'es tout jeune, donc t'es vachement sensibilisé à tout ça.
Ah bah non, mais non.
Et notamment parce que t'es patron. Et tu sais qu'il y a eu des abus, il y a eu des choses en cuisine. Donc...
Ah bah bien sûr. Et t'es obligé de faire extrêmement attention, mais moi j'applaudis, je trouve ça génial. Et on devrait tous être extrêmement vigilants là-dessus. Et des fois, là, on se parle tous les deux, on pourrait se dire que ma phrase, elle a aucune importance.
Mais en fait, non.
C'est en changeant, enfin, j'essaie de faire gaffe quand même en me disant, bah, si tu dis devant, oui, oh, c'est un travail d'équipe, attention, je suis pas tout seul en cuisine, et que derrière, dans ton discours, sous les mots, en fait, sous les lignes, sous les phrases que tu utilises, en fait, c'est toujours à.
Toi d'abord et
à
les
dire,
autres après.
Bon, bah, moi, quand je cuisine, moi, nanana, en fait, je fais ça. Bah, non, en fait, t'as pas compris. Il faut vraiment que ça change de manière globale, quoi. Enfin,
ouais, c'est tout le discours qui doit changer.
Mais c'est ça, c'est ça. Et quand tu vois. Bon, c'est comme de dire, je sais pas, moi, un chef étoilé, ou de dire machin qui est. Non, enfin, c'est les restaurants qui sont étoilés, c'est les équipes. Enfin, c'est.
T'aimerais être étoilé Michelin?
Alors ça,
est-ce que c'est un goal?
La grande question. Ouais, bah, bien sûr. Alors moi, je vais te dire un truc.
T'as des copains qui le sont. Hein. Je pense à Clément Dumont qui est passé sur le podcast aussi.
Bien sûr, Bastien Gillet, Clément Dumont, même j'ai des copains. Qui est un mec qui était dans ma saison de Top Chef, là, Thibaut Spi, ouais, qui est étoilé Michelin aussi. On va pas se mentir. Moi, demain, t'as le Michelin qui t'appelle, qui te dit, vous avez une étoile. Tu tires pas la tronche. T'es content, ouais. Je pense que tout le monde le prend très très bien. Après, évidemment, il faut réfléchir à dans quoi tu t'embarques, où est-ce que tu vas, où est-ce que tu as envie de mener le restaurant, les équipes, tout ça.
C'est-à-dire, ça change quoi une étoile?
Bah déjà, je l'ai bien vu, moi, quand Bastien Gillet il a pris son étoile, du coup, on sait bien, parce qu'il était juste à côté de. Il s'est juste à côté de chez nous, et du coup, on a pu avoir son retour d'expérience. Et moi, j'avais jamais eu vraiment de retour d'expérience comme ça, aussi franc, en fait. Et pour le coup, c'est vraiment quelqu'un, Bastien Gillet, que je trouve génial parce qu'il a cette franchise. Il se cache pas derrière des phrases. Il y a énormément de cuisiniers, tu vas leur poser cette question. Est-ce que tu voudrais une étoile? Ah non, on cherche pas l'étoile. Mais c'est pour ça que je te dis, on va pas se mentir. Ça fait plaisir à tous les cuisiniers.
Je sens quand même une vraie franchise aussi chez toi quand tu dis non, pas particulièrement non plus. Et chez d'autres aussi.
Ouais, mais en fait, c'est où est-ce que tu arrêtes ton curseur? Parce que tu vois, on fait notre boulot, on reçoit les gens, on les met bien au restaurant, on fait notre truc. Et on est toujours envie d'améliorer, tu sais. On va ajouter, tiens, bah, le papier toilette, on va le plier en triangle. Tiens, la carafe d'eau, on va la poser sur un petit socle. Et en fait, tu vas tout le temps gastronomifier ton restaurant.
D'accord.
Et tu fais jamais l'inverse. Je sais pas si tu remarques, mais...
Oui, non, c'est vrai, tu simplifies jamais les choses.
Non, jamais. Et en fait, en restauration, nous, on est les spécialistes de ça, de gastronomifier tout le temps, d'aller vers... L'étoile Michelin, en fait. Parce que
est-ce qu'on peut faire rentrer ce mot gastronomifier dans le dico?
On peut. Moi, je l'utilise tout le temps parce que j'ai des copains qui ont ouvert une brasserie il n'y a pas longtemps. Au début, ils sont non, mais on va faire simple.
Non, on veut une brasserie.
Voilà, assiette, nana. Et puis, tu vois, petit à petit, ils ont commencé à se dire ah, mais tiens, l'eau, on va prendre une fontaine à eau, nana, Castali, machin, ok. Ah, bah, le vin, on va faire une carte des vins un peu plus quali pour ceux qui veulent, nana. Et en fait, on a eu des débats, là, celui qu'on a ici, là, on a eu le même débat, je leur disais, mais vous voyez, on est tout le temps, et moi le premier, en train de se gastronomifier, d'aller vers une gastronomie un peu plus haute, donc aller rechercher, peut-être capturer cette étoile.
Ouais.
Et là où moi je trouve qu'il faut être très vigilant, c'est faut pas non plus se perdre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut faire en fait? Est-ce qu'on veut un bon resto où les gens viennent, ils se font plaisir à 50 balles? Parce que nous, c'est à peu près notre ticket moyen. Tu as bien mangé, tu t'es fait un entrée plat dessert.
C'est 50 euros avec le vin ou c'est entrée plat dessert?
C'est 50 euros avec le vin. Tu peux D'accord. avoir un ou deux verres de vin, t'en tirer pour un. Ouais, tu prends 50 euros, peut-être un peu plus, mais nous, c'est un peu notre.
C'est ton seuil.
C'est un peu notre seuil, ouais.
Ce qui est déjà, en soi, déjà une somme.
Ce qui est une somme. Tout le monde ne met pas 50 euros dans un restaurant. Ah, t'as complètement raison de le dire.
Mais nous, je peux comprendre aussi des gens qui vont plutôt dans une brasserie pour avoir quelque chose d'un peu plus franchouillard, d'un peu plus bistrot justement, ouais. À peut-être 25 euros.
Mais je suis complètement d'accord. Mais là où c'est dur, c'est là où cette histoire d'étoile Michelin rentre en ligne de compte, c'est que faut pas se laisser aveugler par son ambition personnelle,
ouais.
Tu vois, ou son ambition un peu professionnelle de dire on va aller gratter l'étoile Michelin. Parce que pour moi, c'est tout aussi louable de faire une brasserie où le prix est juste, où tu te moques pas de la tête des clients, tu fais des bons produits, machin et tout.
Ah, tu peux bien bosser aussi.
Mais bien sûr.
Avec des plats simples.
Exactement. Et en fait, on a tendance à confondre qualité et standing.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire?
Oui, je comprends.
C'est-à-dire que restaurant haut standing égale restaurant de haute qualité. Mais en fait, c'est faux. Parce que restaurant de bas standing ne veut pas dire restaurant de mauvaise qualité. Bien au contraire, d'ailleurs.
Donc du coup, si un jour, alors on va dire que par grand bonheur pour toi, une étoile Michelin arrive, ça veut dire quoi? Ça veut dire le prix de la carte augmente un peu?
Ah bah, s'il faut faire une...
C'est quoi? Une étoile Michelin, c'est combien? On mange à combien? 60, à partir de 65 euros?
Ouais, alors s'il faut faire un diagnostic de l'arrivée d'une étoile Michelin dans un restaurant, c'est une hausse des prix, une ouais. hausse un petit peu du standing de l'établissement, des couverts changés, des verres, enfin...
Ouais, il y a un investissement qui est remis, quoi.
Il y a un investissement et il y a une hausse des prix. Donc, ouais. Après, tu as des restaurants étoilés qui te font un menu de midi à moins de 50 euros, ça existe, hein. Mm. Il y en a plein. Après, c'est vrai que le ticket moyen, il va augmenter, tu vas augmenter tes prix. Donc oui, tu auras une hausse des prix. Donc ça, faut quand même faut le prendre en compte aussi, quoi.
Cache la question, mais ça rapporte une étoile Michelin?
Ah bah oui. Ah bah bien sûr. Oui. Bah tout de suite, t'es dans le guide. Donc déjà, il y a des gens qui ne jurent que par le guide.
Ah ouais?
Ah bah bien sûr. Non,
parce que pour moi, c'est un truc de vieux. C'est-à-dire que pour moi, j'ai l'impression de prendre ma vieille voiture, de regarder. Oui. Ah non, chérie, je commence à manger à midi, etc. Tu vois. Pour moi, c'est un peu ça le guide Michelin, quoi. Parce que c'était ça au départ.
Oui.
Donc moi, je me souviens de mes grands-parents qui avaient une grosse voiture allemande. Et puis, il y avait le guide qui était dans la boîte à gants. Et puis, quand ils partaient en vacances, et ben, ils regardaient sur la route où est-ce qu'on s'arrêtait. Et c'est pas plus vieux que les années 80-90.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais exactement, ouais, non, mais je suis complètement d'accord. Mon père faisait ça aussi, et c'est un truc de... Ça fait un peu truc de vieux, mais en fait, on se rend pas compte du pouvoir que ça a quand même.
Ah ouais? Et moi, je pensais pas.
Tu demandes à des nouveaux étoilés, est-ce que ça a changé chez eux? Bon, après, ils te répondent ce qu'ils veulent, hein, mais globalement, ça t'apporte une nouvelle clientèle.
Ouais.
Et puis, tu rentres dans une espèce de communauté, tu vois.
D'un club?
Ouais, t'es dans le club du Michelin, t'es invité aux cérémonies, tu reçois ta petite plaque, tout de suite, t'as les autres chefs étoilés qui t'appellent et on devient très copains. Enfin. Bon, c'est pas.
Alors pourquoi on appelle ça une étoile Michelin alors que ça ressemble à une fleur?
Alors en fait, c'est pas une étoile.
Ah bon?
Ça s'appelle un macaron déjà, pour D'accord. être exact. L'étoile, c'est dans les hôtels normalement.
Oui, c'est vrai.
France qui délivre les étoiles, donc là, c'est des vraies étoiles. Et en fait, anciennement, le Michelin, c'était des étoiles.
D'accord.
Une vraie étoile à cinq branches. Et maintenant, c'est des espèces de petites fleurs qu'ils appellent ça des macarons. En fait.
D'accord.
Comme un petit trèfle, quoi.
Parce que c'est moins joli que l'étoile, ça brille moins.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
C'est voilà. joli, mais ça brille moins.
C'est vrai.
Mais donc, ça rapporte quand même du monde. Ça apporte du monde.
Oui, oui, bah c'est un tournant dans la vie d'une entreprise, c'est sûr. Mmh. C'est sûr. Et d'un chef, et de même si tu fais une prestation ailleurs, on discutait un petit peu tout à l'heure en off de prestations que tu peux faire en dehors de ton restaurant. Mmh. L'étoile Michelin, c'est la garantie que t'es un restaurateur chevronné, qu'il y a plein de choses que t'as plus trop à prouver, quoi.
T'as des projets pour la suite? T'as des envies, plutôt?
Ah, moi, la question des projets, c'est toujours une question un peu difficile.
C'est pour ça que je préfère dire envie.
Ouais.
Notamment parce qu'on l'a dit, mais t'es normand à la base. C'est un terroir qui est très riche, la Normandie. Je pense à tous les produits laitiers, notamment. Je pense à, d'un point de vue gastronomique, c'est très riche, la Normandie. Mmh. Là où tu es aussi, en Touraine également. Mais est-ce que peut-être un jour repartir vers la Normandie, te rapprocher peut-être de ta famille, est-ce que c'est quelque chose que tu as envie? Alors, ce serait de la mobilité géographique, ça, pour parler des RH. Mmh. Mais est-ce que tu as peut-être d'autres envies aussi derrière? Et pourquoi pas un deuxième restaurant? Je sais pas.
Alors moi, l'idée du deuxième resto, ça m'a jamais branché.
D'accord.
Parce que...
On te verra jamais à la tête d'une chaîne de restaurants avec ton nom.
Non.
Tu ne seras pas le Cyril Lignac bis.
Non, je pense pas. C'est pas trop mon délire. Surtout que, mon métier premier, c'est quand même de faire à manger, d'être avec les gens. Alors je me vois mal chapeauter des trucs de loin. Après, je dis ça, mais c'est hyper compliqué parce que tu sais pas les envies que t'auras dans 10 ans. Enfin, ouais. Les temps changent, tes envies aussi.
Ouais, dans 10 ans, t'auras 40 ans, donc c'est généralement un peu le tournant.
Bah c'est ça, donc ça se trouve, je te dirais, je reviendrai là pour te l'expliquer peut-être.
Carrément.
Mais voilà, donc j'en sais rien, mais à l'heure actuelle des choses, je veux pas de ces choses. Enfin, moi j'ai toujours trouvé ça très bizarre, les chefs qui avaient plein de restos, du coup t'es nulle part à la fois. Enfin t'es partout et nulle part à la fois, quoi. Enfin c'est pas un truc qui me correspond, je comprends que les gens le fassent, et moi je suis incapable de le faire. Mais un jour, pourquoi pas. Par contre, dans mes envies, et je suis content parce que j'arrive un petit peu à les réaliser quand même, c'est justement de faire plein de choses très différentes autour du restaurant. C'est-à-dire que le restaurant, c'est pour moi un super projet de vie qui est hyper enrichissant. Parce que je suis conscient que tous les cuisiniers, à mon âge, n'ont pas la chance de faire ça, n'ont pas la chance de pouvoir faire une carte, recruter qui ils veulent, avoir une liberté vraiment totale.
D'un point de vue humain, ça t'a appris énormément. Hein.
Ah ben c'est incroyable. C'est-à-dire que l'humain, de toute façon, dans la restauration, c'est
80%.
Ah mais c'est énorme, en fait. C'est le plus gros pôle de dépenses et c'est aussi le plus gros pôle de temps passé, de problèmes à régler. Enfin, voilà, c'est comme ça, quoi. Mais par contre, non, j'aimerais bien m'ouvrir à d'autres choses. Moi, j'essaie de ne pas me fermer à des... Encore une fois, au truc du restaurateur qui est dans son resto, qui fait sa carte. Moi, si demain, tu me dis, vas-y... Je serais complètement capable de partir sur complètement autre chose, en fait, parce que je trouve ça génial. J'adore la formation, j'adore l'enseignement, j'adore l'associatif, j'aime beaucoup tout ce qui est le volet producteur, c'est-à-dire le maraîchage, les pêcheurs, bien sûr, mais l'élevage, toutes ces choses-là. En fait, pour moi, c'est des choses qui me passionnent tout autant que la cuisine.
Ouais.
En fait, quand tu penses alimentation, tu peux penser, mais beaucoup plus loin qu'un restaurant. Aller très très loin.
Jusqu'à la santé peut-être aussi.
Bien sûr, tu as des chefs, Michel Guérard par exemple, lui il a fait ça, c'est-à-dire qu'il a pensé cuisine santé, il a pu penser cuisine minceur, plaisir minceur. Fin...
Ce qu'on appelait la nouvelle cuisine.
Exactement, ouais. Et en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est que faut pas se renfermer dans un truc trop bateau de voilà, la cuisine, c'est le restaurant. Pour moi, là, c'est tellement plus large que mes envies, en fait, elles sont dans la diversification.
Tu te vois comment dans, allez, je sais pas, 15 ans? On sait que c'est aussi la restauration des métiers où il y a peu de temps pour la vie personnelle.
C'est vrai.
T'en souffres?
Il y a des fois, on va pas se mentir. Hein, c'est, en fait, moi je parle toujours de sacrifice. Moi. C'est un peu dur comme mot, mais je trouve que c'est à la hauteur. C'est le poids des sacrifices que tu fais pendant des années. Et on en fait tous dans nos métiers, tu vois. Mais je pense que... En cuisine, si je prends mon cas, j'en ai fait parce que j'avais envie de m'investir dans une entreprise, j'avais envie de faire des choses que j'avais pas eu l'occasion de faire avant, machin, donc tu sacrifies. Donc t'es pas au mariage, t'es pas au machin, t'es pas avec ta copine, t'es pas à truc. Bon, tu sacrifies, très bien. Mais ce qu'il faut voir, c'est le retour d'investissement que t'as un jour, si tu l'as.
Si tu l'as.
Parce qu'il y en a, je pense qu'ils l'ont peut-être jamais, mais... Ouais. Tu vois, je sais que tous ces sacrifices que j'ai faits, je me sens pas du tout mal vis-à-vis de ça parce que je me dis aujourd'hui, tout ce qui s'est passé, je le dois à ces sacrifices-là, en fait.
Ouais.
Donc je me dis, en fait, t'as tellement bien fait. Enfin, je m'en serais voulu, en fait, si j'avais pas... J'étais resté pépère en me disant, oh, non, mais attends, tu sais quoi, je vais pas faire ça.
Mais c'est pas un peu dur pour tes proches aussi?
Ah bah, de toute façon, mes proches, ils sont triés hein, maintenant. C'est briefé, hein. C'est-à-dire qu'ils savent très bien. Ils savent très bien comment
il y en a
ça
aussi
se passe.
Il y en a aussi beaucoup dans la restauration.
Bah oui, mais moi j'ai beaucoup de gens. Bah, de toute façon, les gens que je vois le plus, c'est les gens qui font mon métier. Hein. Enfin, ouais. C'est comme ça. Et puis moi,
c'est obligatoire quand on est chef d'avoir des amis dans la restauration.
Oui, bah, après, tout dépend comment tu tries tes amitiés, mais tes amitiés de tous les jours.
Ouais.
Moi, je sais que j'ai des copains qui bossent dans d'autres restos, qui sont des collègues chefs ou quoi.
Donc, je comprends.
C'est ça, je sais que c'est eux que je vois le plus. Ouais. Et on se comprend, on parle le même langage. Mais ça n'empêche pas que j'ai beaucoup de copains qui ne sont pas du tout dans le milieu. Hein. Et j'adore aussi.
Et si un jour tu as des enfants, tu les pousseras vers ce métier-là?
Non, pas nécessairement. Mais là, c'est mon père qui parle. Hein, mais mon père, il a une entreprise. Enfin, il était tout seul dans son entreprise, donc c'est un grand mot. Mais,
oui.
Et je m'en souviens, j'étais passionné par son métier. Et il disait, si vous voulez faire comme moi, vous faites comme moi. Mais si vous voulez faire autre chose, faites autre chose. Enfin... Oui. Je pense pas que je mettrais la... Je pense que je suivrais la même ligne d'éducation. Je pense que je n'irais pas les inciter.
Très permissif, alors.
Oui, c'est ça, c'est ça. Mais je pense que c'est vraiment... Enfin, moi, c'est ce qui m'a donné les codes. Ça a vraiment été la clé de mon épanouissement, en fait. Mmh. Et c'est ce qui fait que... Enfin, moi, mes parents, je les remercierai jamais. Enfin, mes parents, mes frères, mes sœurs, d'ailleurs, tous. Hein, mais d'avoir su comme ça, à la fois être permissif, mais en même temps, ne pas te laisser... parce que aussi, c'est facile de dire, oh, bah, ouais. Tu fais ce que tu veux, et puis t'es perdu.
Ouais.
C'est savoir guider, mais pas influencer. Pas
ouais, facile, c'est ça. Hein. Juste ce qu'il faut de guidage. Mais ça fait deux fois que tu dis que tes parents sont formidables.
C'est vrai?
Ouais.
Ah, j'ai la première fois, je me rappelle pas.
tes parents étaient géniaux.
Bah oui, oui. Nos parents, on leur doit quand même beaucoup de choses, en bien ou en mal. Hein, mais moi, je dois dire qu'ils ont, ils ont beaucoup, beaucoup fait et ils font encore énormément, en fait.
Ouais.
Pour leurs enfants, de manière générale. Et nous, mes frères et sœurs, ils font tous des trucs de fou. Et je me dis, mais c'est quand même, il y a un dénominateur commun, quand même.
C'est vrai?
Enfin, je me dis, mes parents, ils y sont pour quelque chose, quoi. Ouais. Donc, non, c'est vrai que c'est chouette.
C'est quoi ton plat signature? Ce que tu préfères, ce que tu aimes le plus cuisiner?
Préparer. Cuisiner ou manger? Parce que...
Bah, je vais te poser la question d'abord par cuisiner.
Cuisiner? Bah, alors évidemment, j'adore cuisiner le poisson.
Pourquoi le poisson d'ailleurs? Parce qu'il y a quelque chose de plus vivant que le poisson?
Déjà, bon, je suis un grand fan de pêche. Alors déjà, ça joue beaucoup.
Ouais, je
moi,
crois,
l'eau,
ouais.
J'ai un truc avec l'eau. Je sais pas pourquoi, mais une flaque d'eau, j'ai regardé s'il y a des poissons, donc c'est trop bizarre.
Mais t'aimes nager, non? Il y a un truc?
Non, même pas. Je nage hyper mal, en plus. Enfin, je nage normal, quoi, comme un collégien de 3e qui a appris à nager, quoi. Non, mais je sais pas. Moi, ce truc de l'eau, pas savoir ce qu'il y a dedans. On va pêcher pour voir ce qu'il y a dedans. Ce truc-là, je sais pas pourquoi ça m'habite, mais tellement que... C'est omniprésent. Moi, tu me fous devant un lac, tu es en train de me parler, je t'écoute plus. Hein.
D'accord, complètement... c'est le lac.
Ah ouais, c'est vraiment ça. Et donc on est venu donc la pêche et a suivi donc la cuisine des poissons. Et en fait, bon, après j'ai tous les arguments pour défendre la cuisine des poissons.
Ouais.
C'est pour moi c'est le, ce qui se fait de plus raffiné en fait. C'est-à-dire que la viande, j'adore la viande, hein, mais j'en mange aussi. Hein, ça m'arrive d'en manger. J'aime beaucoup ça aussi et d'en cuisiner. Mais il y a, je trouve qu'il y a un côté beaucoup plus grossier en fait.
Mmh.
Tu vois, en ce moment, on est en train de faire les charcuteries là, pour la saison, qu'on achète des cochons entiers, tu vois.
Oh
donc, moi j'adore faire ça, ça me passionne aussi, tu vois, découper une grosse carcasse, dire bon, bah ça c'est un boudin, ça on va faire du boudin noir, ça on va faire.
C'est-à-dire que c'est toi qui fait tout ça pour
ouais.
le restaurant.
Ouais, là on a lancé, tu vois, on a lancé 20 saucissons, 15 jambons, donc des petits jambonneaux là. On fait des rillettes, on fait plein de trucs.
D'accord.
Et au fil de la saison,
tu les écoules.
Tu distilles, ouais, voilà.
Okay.
Donc là, j'en ai un cette semaine et j'en rachète un la semaine prochaine.
Ah, c'est dingue! Tu pars du cochon entier.
Ouais, entier, ouais. Ah, il y a tout. Hein. T'as la tête, les abats, c'est un truc entier. Il n'y a juste plus les poils qu'ils ont brûlés.
C'est ça.
Et donc, c'est génial, j'adore. Et c'est très intéressant, mais tu vois, il y a ce truc de. C'est grossier, je trouve un peu.
Ouais.
Tu vois, t'as là le morceau de viande, oui, d'accord, c'est corsé, c'est... Alors que le poisson, t'es sur des...
C'est fin, c'est délicat, ça doit être consommé rapidement.
C'est ça, c'est... Tu peux pas... Ça accepte pas la médiocrité.
Ouais.
C'est vraiment... C'est raffiné, t'as des goûts subtils, et encore plus le poisson d'eau douce, là, t'es vraiment... t'es à fond dans le truc. Et pour moi, c'est là où c'est le plus casse-gueule, et en même temps, c'est là où ça peut être le meilleur.
Donc... À cuisiner le poisson et particulièrement le poisson d'eau douce,
ouais.
Mais à déguster.
Les sandwichs en triangle, non, je rigole. C'est énorme.
Sandwich triangle du TGV, s'il vous plaît. Le saut des beaux, je suis fan.
Oh, mais non. Mais en fait, je dis ça parce que moi, je
alors,
suis.
Alors arrête parce que vraiment, je connais des gens qui sont, quand ils partent en voiture, qui sont très abonnés au triangle, par
bien
exemple,
sûr.
Sur l'autoroute. Je peux comprendre
mais,
le côté pratique.
Et bien
tout.
Sûr. Alors le côté pratique et puis le côté. En fait, ça va tellement plus loin que ça.
C'est pas mauvais, en fait.
Alors, bon, après, oui. Non, en plus, oui. Alors, je mange des sandwichs en triangle, attention. Voilà. Je vais pas taper dessus. Mais en fait, ce qui est génial, c'est de s'intéresser aux habitudes de consommation et à quoi ça fait écho. Et au contexte.
Ouais.
C'est-à-dire que t'es dans ta bagnole en train de manger ton sandwich en triangle, mais tu pars en vacances. T'es
ouais.
là et le sandwich en triangle, il est bon. On a tous déjà bu un bon vin, genre... Tu vas en Suisse, tu vas au Portugal, tu te sers un petit vino verde là, tu le bois, tu dis mais ce vin, mais il est incroyable, j'en prends deux cartons. Tu le ramènes chez toi.
C'est plus
le soir, tu dis tiens, on va s'ouvrir un blanc. Oh bah tiens, j'ai le vino verde de machin. Tu l'ouvres, tu dis mais c'est quoi cette dose? Et en fait, c'est marrant les contextes. Et nous au restaurant, c'est vraiment notre Enfin, je dis toujours que tu mets le même resto en plein Paris, on marche pas.
C'est vrai ?
Ah, j'en suis persuadé.
Mais pourquoi pourtant ça fonctionne ?
Parce bien, que ça fonctionne là.
Oui, là où vous êtes. Ouais.
Mais en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est le contexte. Les gens, ils viennent, il y a une histoire qui est racontée. Mais dès l'entrée, t'arrives, t'es chez le pêcheur, les bateaux sont devant, la Loire coule.
Mais on pourrait ça, c'est vrai.
Tu vois, t'as l'odeur, les oiseaux, le son. On t'amène, les mecs qui sont avec des chapeaux, des vareuses, t'as des filets accrochés au mur.
Ça, c'est vrai aussi.
Donc, t'as ce truc de... Bon, bah, là, t'es en bonne disposition pour manger du poisson de Loire.
Ok.
Mais tu fais la même chose où... Et d'ailleurs, c'est à Top Chef, ça m'a, c'est là-bas que je l'ai compris. C'est qu'en fait, tu te mets 15 assiettes avec 15 plats différents. Tu les manges dans une salle blanche, en plein Paris, décorée comme tu veux, mais je veux dire, voilà, sans contexte particulier. Mm-hmm. En fait, tu passes à côté.
Ouais.
Parce que t'auras pas ce truc de... on te prend par la main et on t'amène sur le bateau, on t'amène voir les plantes, les petits animaux, les machins. Et en fait, le contexte... Donc, notre sandwich en triangle sur l'autoroute... ou mon silure sur le bord de la Loire, mais en fait, c'est un peu la même chose.
C'est le même combat.
C'est le contexte qui joue énormément. Et d'ailleurs, tu regardes les très grands restaurants, très souvent, c'est des restaurants de contexte.
Ouais.
On parlait de Michel Guérard, bon, bah, voilà, le contexte, arrive à Eugénie-les-Bains, c'est idyllique, c'est un truc thermal, machin. Tu vas chez Christopher Coutenceau, t'es sur la mer.
T'es à La Rochelle, ouais.
Bon, bah, voilà, et je pense que c'est la clé de beaucoup de choses, ça. Pour ça que...
Mais on ne peut pas rester sur le plat que tu aimes déguster, le sandwich triangle, c'est pas
non,
possible.
Non, je rigole,
tu peux pas me laisser ça. Tu peux pas me laisser ça comme ça.
C'était une blague. Non, mon plat préféré, bref, ça va être un...
Ça peut être un dessert aussi, hein, mais t'es pas trop bec sucré.
Non, moi je suis très salé. Mais tiens, pour autant...
On peut dire qu'on a mangé un flan.
Ouais, on a mangé un flan avant le podcast. Je me suis régalé, c'était très très bon. Mais j'avoue, je suis plutôt salé. Et je crois que... Le plat que je préfère déguster, déjà de manière générale, quand on me fait à manger, moi j'ai vraiment, je reçois ça comme un cadeau.
C'est vrai?
Je sais très bien le temps, quand t'as choisi tes ingrédients, t'as pris le temps de faire les choses. Et quand je sens que, moi tu me fais un œuf mimosa, et quand je vois que tu t'es fait chier à retirer le jaune, à l'écraser dans ta maillot et que tu l'as remis, nanana. Je me dis, mais je vois le travail et l'intention.
Ouais, et quand c'est fait avec une douille, tu te dis, tiens, ça c'est bien fait, il a mis une douille, donc forcément, il a eu de la perte, il a dû nettoyer le truc, tout ça.
Ouais.
Tout ça, tu l'as en fait.
Et ouais, et en fait.
On peut pas te surprendre.
Ah si, moi je passe mon temps. Mais là, je suis le meilleur client de la Terre. Les gens, ils se mettent la pression à chaque fois quand on me fait à manger. Alors que je pense que je suis le moins difficile des clients, parce que justement.
Un sandwich triangle, ça lui va.
Ouais, bah... Je vais manger plus que ça maintenant. Quand je vais arriver chez les gens. Non, mais du coup, donc, voilà. Non, je pensais, en fait, moi, je pensais vraiment à un plat de mon père ou de ma mère. Ma mère a fait la marmite diépoise. C'est un plat typique de Normandie. C'est un peu la bouillabaisse du.
J'allais dire, il va me faire une torgoule ou un truc comme ça. Mais
ouais, la torgoule. Ouais, la torgoule, c'est bon, mais c'est moins compliqué. Mais la marmite diépoise, ma mère vient de Dieppe, donc c'est un village au bord de la mer de pêcheurs.
Et des tripes à la mode de Caen?
Ouais, j'aime bien les tripes, mais ouais, c'est pas mon plat préféré. Ouais,
la marmite de Dieppe, alors.
Ah, la marmite Dieppe, ça, c'est un plat d'exception. C'est un plat incroyable. Le lapin à la moutarde de mon père.
Ouais, en fait, t'es dans des choses hyper simples.
Ah, mais ouais. Mais...
Pas du tout technique.
Ah non, non. Ah, bah après, j'ai déjà mangé des trucs techniques qui m'ont frappé au visage, mais. Tu sais, quand tu vas dans un restaurant, tu manges l'assiette et là, tu prends une gifle de cuisine, une leçon de cuisine. Tu vois, genre, voilà.
Ouais.
La semaine dernière, on était chez Christopher Coutenceau. Il y a un plat.
Donc à La Rochelle.
À La Rochelle. Il y a un plat, c'était les bouquets, là. Les bouquets de. Ce truc que tu ramènes. Enfin, tu étais au bord de la mer avec ton filet, tu pêches dans les mares, quoi. Enfin, bref. Et il te fait un plat avec ça, mais waouh, là, tu prends une claque.
Comment ça se passe quand un top chef va chez un autre top chef comme ça? Vous vous annoncez, vous vous parlez, vous allez vous voir, ou tu y vas complètement incognito?
Oh non, j'y vais incognito.
Ouais.
Non, je déteste ça, moi. Quand tu. Ah, tu sais, j'en ai des fois au resto qui font ça. Tu sais, avant d'arriver, les mecs, ils ont une petite page, un petit machin, ils veulent se faire voir.
Ouais, des critiques gastronomiques, on va pas dire lesquelles, mais on en connaît. Ouais.
Ils t'identifient, c'est avant le repas.
Ouais, ça, c'est ça.
Tu es en train de bouffer ton.
Hashtag, on arrive voilà. Chez machin, etc.
J'ai dit, bon, là, c'est en train de te briefer. Non, moi, je déteste ça. D'ailleurs, je réserve.
Mais ça cherche, ça veut dire quoi? Ça attend la réduc à la fin? Ça attend l'offert? Ça attend quoi?
Ouais, ça attend de. Puis, ça, bah, c'est un peu aussi. Ça attend la petite. Peut-être. Ouais, peut-être. On peut après ça peut être c'est pas forcément malveillant, tu vois, ça peut un mec qui veut juste échanger avec toi.
Ouais, tu rencontrais, ouais.
Ah, putain, mais j'aimerais bien savoir comment il cuisine ci, ça.
Donc, qu'il vienne, il va voir.
Non, mais exactement. Mais c'est vrai que quand tu arrives en t'annonçant un peu, en montrant les médailles, tu sais, en montrant un peu les muscles, en disant, bon, ben voilà, moi j'ai fait ça, ça, ça. Parce que le mec, il sait très bien qu'en t'identifiant, tu vas aller voir sur la page Instagram.
Évidemment.
Tu vas regarder sa bio, tu vas dire, ah, tiens, il a fait ça, ça, ça. Bon. C'est nul, mais pour autant, les gens qui font ça, je les reçois très bien et je suis très content d'échanger avec eux. Mais à titre perso,
toi, tu le fais pas.
J'ai horreur de ça. Moi, je déteste. Mmh. Je le fais pas du tout.
Donc, qu'est-ce qui t'a sauté au visage chez Christophe Coutenceau?
Moi, en fait, je me suis dit, putain, on mange dans un restaurant qui a eu quand même 3 étoiles Michelin pendant 2 ans. Bon, là, ils sont à 2, mais
bon. Non, mais ça les vaut encore les 3.
On pourrait en discuter des heures. Et en fait, je me suis dit, c'est une cuisine qui a des couilles, quoi. C'est une cuisine franche. Tu manges le plat des bouquets, tu manges des bouquets crus, des têtes de bouquets séchées, je sais pas quoi là. Je me suis dit, en fait, en sortant de là-bas, je me suis dit, j'ai pris une grosse claque, j'ai adoré, et je me suis dit, ça plaît pas à tout le monde.
Ouais.
Et ça, c'est fort, parce que bon, tu vas manger au Plaza Athénée ou dans un.
C'est consensuel.
Voilà, tout le monde aime bien un turbo rempli de truffes. Bon, on va pas se mentir, c'est bon. Enfin, je veux dire, voilà. Alors que là,
mais c'est consensuel.
Mais c'est ça, exactement. Là, ils te servent des trucs. Le mec, il a mis ses tripes sur la table.
C'est quoi l'avenir alors de la cuisine? C'est ça, justement, ne pas être consensuel, savoir peut-être être clivant, prendre des risques, ou au contraire, peut-être revenir à des fondamentaux et être extrêmement généraliste.
Une chose est sûre, c'est que la cuisine de demain, elle n'ira pas sans une conscience écologique, une conscience sociale aussi. Voilà, c'est quand même des
trucs. Ça, c'est impératif.
Ces trucs qui dessinent notre avenir. Ouais. Voilà, je veux dire, on l'a sous les yeux tous les jours. Je pense que la cuisine, la grande cuisine, elle n'ira pas sans ça. C'est un tournant qui va être pris. C'est censé être en cours de transition, mais bon.
La parole s'est vachement libérée, donc oui. C'est pareil. Il y a quand même pas mal de choses avec certains cuisiniers aussi qui avaient quand même bien abusé. Donc,
Non, mais bien sûr, bien sûr. Mais disons que la cuisine de demain, elle ne sera pas sans ça. Après, moi, les cuisines entre guillemets d'auteur, un peu à la Coutenceau, où le mec, ça te plaît pas, je m'en fous. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a de l'avenir, quoi. Enfin, je veux dire, les gens viennent chercher des expériences. Voire même, les gens viennent chercher des plats qu'ils n'aiment pas, des fois.
Ah ouais?
Par exemple, moi, je le vois avec le silure, il y a des fois des gens, tu sens que ça les perturbe.
Ah oui, moi aussi, ça m'a perturbé la première fois.
Tu vois, mais ils veulent quand même, et moi, je trouve ça génial. D'ailleurs, je les salue, hein, je trouve ça super.
Mais ils veulent essayer.
Ils veulent essayer parce qu'ils veulent aller au bout de l'expérience. Ouais. C'est un peu comme à Fort Boyard quand tu es.
Quand tu te fais les migales en bas. Déteste ça, mais je vais le faire quand même.
Exactement, c'est exactement ça.
J'ai la phobie du noir, mais je vais le faire quand même.
Voilà, bon, je reconnais pas qu'on a la phobie du silure encore, mais c'est un peu ça en fait.
Ouais, faut pas le voir en vrai, hein, le silure.
Non, c'est gentil comme tout.
Mais, je suis pas sûr.
Non, en vrai, c'est pas méchant, le silure. C'est le matelot de Romain, le bras droit de Romain qui s'appelle Marcelin. Qui est un gars génial qui est avec nous depuis des années, qui pêche avec Romain. Il se baigne avec les silures, lui.
Ah ouais?
Ouais, lunettes de plongée. Ouais, et puis, c'est un poisson qui ne fait rien du tout. Qui n'a jamais attaqué un chien, qui n'a jamais attaqué un humain, je veux dire.
C'est pas carnivore?
Ah si! Mais le brochet est carnivore, le cendre aussi, le chevesne. Pourtant, ça n'attaque pas les humains. Enfin, je veux dire, il y a quand même une histoire de.
De poids.
De taille aussi. Voilà, aussi. Ça. C'est ça, moi, je pense que c'est vraiment des cuisines d'avenir. Mm. Réussir à imposer en fait des choses, de pas être trop dans le trop facile, mais pour autant, tu vois, c'est marrant parce que quand on y est allé manger, j'ai pas pu m'empêcher d'aller regarder
les cuisines.
Pas les cuisines, mais après le repas, on a regardé les avis de Google. C'est nul de faire ça, mais en fait, en mangeant, je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a des gens qui doivent partir de là en se disant, mais c'est quoi ce martien, quoi. Et effectivement, il y a des gens, je pense, et je le voyais dans ses avis Google, des gens qui n'ont vraiment rien compris au truc, qui disaient « Ah, mais attendez, on n'a pas mangé de homard, on est quand même dans un restaurant 3 étoiles. » Bon.
Donc, t'as rien compris.
Donc, t'es là, genre, et lui, il t'explique tout le repas, les saisons de l'océan, on pêche. En ce moment, on pêche du hareng parce qu'il y a du hareng, et demain, on pêchera de la sardine parce qu'il y a de la sardine, tu vois. Ouais. Et c'est génial, et c'est parce que c'est abondant. Et puis après, c'est le cuisinier qui... Le cuisinier, ce n'est ni plus ni moins qu'un transformateur. Il n'a pas créé le produit, il n'a pas conçu la forme d'un poisson ou la dimension d'une carotte. Lui, il a pris un truc brut, il l'a transformé et il te le met dans l'assiette. Et le mec qui te dit, oh, mais il n'y avait même pas de homard, t'as envie de lui dire, mais non, mais t'as rien compris, toi. C'est un mec qui te parle de saison, de l'océan, de machin. Et donc, tu vois, c'est ce clivage-là où ça divise, quoi.
C'est peut-être qu'il y a une éducation à refaire aussi.
Bah oui, ouais, non, mais bien sûr. Bah après, oui, c'est sûr. C'est sûr que pour certaines personnes, tu mets 3, parce que c'est 300 euros le menu quand même. Donc, tu te dis, ouais, j'ai mis 300 euros dans un menu.
C'est pas beaucoup, c'est pas tout le monde.
Y a pas de homard. Bon, ça peut, je comprends que ça puisse, chez certaines personnes, ça puisse agacer. Mais moi, je me suis même pas posé la question. Je me suis dit,
Je sais pas, j'aime pas les homards.
Bon, bah voilà, comme ça, le problème est réglé.
Je vais te poser la question, Jacques Chancel, mais est Dieu dans tout ça?
Alors, moi, je suis pas le plus. Le plus, comment dire, le plus. J'allais dire le plus croyant, c'est marrant. Alors, et j'ai hésité avec le plus spiritueux. Je suis très spirituel, dans le sens où je crois beaucoup
À quelque chose.
pas forcément à quelque chose. Alors, je suis archi terre à terre. Moi, je suis du genre un peu. Je crois pas à tout ce qui est. Tout ce qui est force supérieure, ce genre de choses. J'ai plutôt une approche qui est peut-être plus scientifique ou plus terre à terre. Alors peut-être que quelque part, ça me rassure et que mon moi inconscient essaie de me jouer des tours. Mais bon, bref. Disons que moi, je crois beaucoup, par contre, à une forme de karma, tu sais. Quand tu fais le bien, tu attires le bien, t'as une espèce de devoir envers les autres, tu vois, ce genre de choses. Moi, c'est des trucs. Auquel je crois vachement. Et tu vois, tout ce que je viens de dire sur la bienveillance, on peut parler de religion, de spiritualité, autant qu'on veut. C'est des mots, en fait. Mais finalement, le plus important,
C'est les actes.
c'est les actes, c'est ce qu'on a au fond de soi et c'est ce qu'on ressent. Et en fait, c'est des valeurs. Tu me prends le même discours que je viens de dire là, tu pourrais le prononcer dans une église, ça marcherait, quoi. Donc en fait, peu importe la case dans laquelle on peut me ranger, mais disons que c'est des valeurs que j'aime bien quand même.
Et l'amour.
Et l'amour, moi, ça fait des années que je suis amoureux de la même personne.
C'est beau.
C'est quand même pas rien. Puis c'est une sacrée histoire en plus, hein, qui a connu
Des hauts débats.
J'allais dire des hauts et des bas, mais en fait, je réfléchissais, je pensais qu'à des hauts. Parce qu'en fait,
Il n'y a que des hauts.
non, mais tu sais, les bas qui se transforment finalement, des fois, un moment dur dans une relation, tu peux transformer l'essai et que ça devienne quelque chose d'encore plus incroyable. Et c'est un peu ça qui
En
se.
force.
Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais je suis dans une relation qui est fantastique parce que la fille avec qui je suis depuis maintenant 7 ans, elle est quand
Tout
même passée.
supporté.
Ouais, elle est quand même passée par des épreuves qui, je sais, n'ont pas été hyper faciles. Bah, tu vois, pour reparler de l'émission, c'est vrai que, enfin, t'imagines du jour au lendemain, moi j'ai passé, et encore aujourd'hui.
Alors, je sais, et je te poserai pas la question, mais je sais ce que l'hypermédiatisation fait, ouais.
Ah, mais ouais, puis même, moi j'ai passé des soirées, et j'en passe encore, des soirées entières où t'as des gens qui te parlent que de ça. Toi, t'as ta nana, elle est à 1 mètre de toi. Personne ne va lui poser une question pendant la
Et
soirée.
encore, c'est pas, on discute pas de ce que tu as pu recevoir sur les réseaux,
Oui, en
etc.
plus. Oui.
Voilà. Ouais,
Mais ça, à la rigueur, bon,
t'évacues.
tu le manages comme tu veux. Et puis, c'est toi qui filtres, entre guillemets,
Ouais.
ce que, enfin, comment tu protèges aussi
Ta vie privée.
ta vie privée, voilà. Mais moi, il y a des moments où vraiment j'ai trouvé ça vraiment très dur. Et c'est pour ça que je la respecte vraiment beaucoup là-dessus. Sur le soutien qu'elle a eu envers moi, malgré. Mais je te dis, moi, j'ai passé des soirées entières où tu as des gens qui te parlent toute la soirée
Et elle
de
n'existe
toi, et
pas,
toi, tu
quoi.
n'existes pas. Là, à
Ouais,
côté, elle
c'est fou.
n'existe pas, c'est un fantôme. Et même des gens, alors des gens que tu connais pas à la rigueur. Bon.
Tu peux comprendre éventuellement.
Et même quand des gens qui sont, je sais pas, moi, qui étaient potes avec elle, genre, du jour au lendemain, ils se disent, ah, mais attends, le copain de Colline, il a fait. Et du coup, toi, tu deviens le centre de l'attention, alors
Ouais.
qu'avant,
On t'aurait pas capté, quoi.
on t'aurait pas capté. Là, ça peut être dur. Mais ça, c'est valable pour ta
Partout.
copine, c'est valable pour les collègues avec qui tu travailles, avec tes amis. Et ça, à gérer, c'est pas simple.
Tu connais le principe du podcast. Il y a cette séquence qui vient terminer notre discussion. C'est le mot de la fin et c'est ton moment.
C'est marrant parce qu'en venant, j'avais une idée très précise de ce que j'allais dire. Et je m'en suis complètement détaché au fur et à mesure du dialogue qu'on a eu tous les deux. Et je crois que, en fait, ce qui en ressort de toute cette discussion qui est à la fois très légère et très, en même temps, bah, très profonde, parce que bah, on parle de nos quotidiens, de nos vies, de nos éducations, de nos parents, de nos secteurs professionnels. En fait, en filigrane de tout ça, je me rends compte qu'il y a beaucoup de... Enfin, autour de moi, je vois que ces métiers-là, les choses qu'on fait pour les autres, quand on parlait de recevoir, d'accueillir, de faire des choses pour des associations, faire à manger, ce genre de choses, en fait, c'est des choses qui fonctionnent parce qu'on est ensemble, parce qu'on est nombreux, parce que on pense, entre guillemets, les uns aux autres. Et je crois que quelque part, j'ai fait ce job-là aussi pour ça, de réussir à établir peut-être des connexions entre les gens, entre moi et les autres, mais aussi les autres entre eux. Et c'est des fois ce que j'arrive à faire, des fois on n'y arrive pas, mais quand on y arrive, on en est très content. Et mon mot de la fin, je dirais que c'est justement sur ces interactions-là, sur la vigilance qu'on devrait tous porter en fait au regard qu'on a sur les autres. C'est-à-dire que c'est tellement facile de critiquer sans cesse, de toujours trouver quelque chose à redire, toujours trouver le défaut chez les autres et jamais chez soi, en fait, ne jamais passer par la remise en question. Que, en fait, je trouve que bon, ça va beaucoup plus loin que notre métier parce que nous, on fait qu'à manger. Mais en fait, pour moi, il y a cet aspect-là de faire attention à l'autre, d'accepter aussi l'autre. Alors, c'est des belles paroles, hein. C'est facile à dire, c'est beaucoup plus compliqué à faire, mais c'est quelque chose que j'ai appris grâce justement à ce métier et aussi beaucoup grâce à cette émission, grâce à Top Chef, de en fait, faire le bilan sur toi, sur les autres, sur le rapport que tu as avec les autres, sur ton image, ce genre de choses. Et je dirais que voilà, mon mot de la fin, c'est tout simplement de réussir à créer comme ça des moments tous ensemble qui favorisent la cohabitation, qui favorisent le respect, le partage, l'acceptation de soi et des autres. Enfin, c'est compliqué de l'exprimer comme ça en quelques mots, mais c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est très très important maintenant dans ma vie. Alors que je partais juste en faisant un métier purement manuel, et finalement, c'est un métier qui a une portée bien plus grande et bien plus large que ce que j'imaginais, quoi.
La bienveillance.
Ouais, la bienveillance. Mais ça, c'est un sacré mot, la bienveillance. Avant, en off, on parlait pas mal de podcasts. Et moi, il y a beaucoup de podcasts où ça parle de ça, de bienveillance, de machin. Alors, c'est pareil, c'est un grand mot, mais la bienveillance, c'est... Ça peut tellement être central dans ta vie. Ça peut t'apporter tellement de choses, en fait. Et tu vois, tout à l'heure, je parlais de la critique. Et on est tous un peu en proie à la critique et pas à la bienveillance. Tu vas dire, ah bah lui il fait comme ça, ah bah t'es le chef, il fait comme ça, bah forcément, il a le matos ou il a le personnel ou machin. Et moi le premier, je sais que je suis victime de ça. Et j'essaie de me reprendre fréquemment, de me dire, attends. Transforme cette critique en un challenge justement, en disant, bah toi tu vas essayer de faire pareil ou tu vas essayer de faire mieux ou machin. Mais c'est tellement simple, c'est tellement la facilité, mais c'est terrible. C'est tellement la facilité d'aller venir, d'aller venir critiquer, d'aller venir, de manquer de bienveillance justement.
Merci Ambroise.
Avec grand plaisir, c'était trop chouette.
Voilà, j'espère que cet épisode de Ces garçons-là vous a plu. En tout cas, c'était une très belle rencontre avec un chef véritablement plein de talent. J'espère aussi que cet épisode, peut-être, vous a donné faim. On vous donne rendez-vous sur l'Instagram de Ces garçons-là. Bien sûr, si vous souhaitez poser une question à Ambroise, il n'y a pas de problème, on transmettra. Et puis, n'oubliez pas aussi, sur votre application de podcast, qu'il s'agisse de Deezer, de Spotify, d'Apple Podcast ou autre, eh bien de mettre des petites étoiles pour, alors pas des étoiles Michelin évidemment, mais des étoiles pour noter le podcast. C'est très important parce que, alors si ça ne nous rapporte pas d'argent, bah, au moins ça fait progresser le podcast et c'est ça le plus important. Merci à tous, belle semaine et on se donne rendez-vous très vite dans Ces garçons-là pour une nouvelle rencontre.